Le Grand Dialogue.
Sigi Gafoba.
Edouani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry. Halo Dumambi.
Chenne Berry. Sigi Gafoba.
Le Grand Dialogue.
Mercredi 8 mars, mesdames et messieurs, heureux de vous retrouver pour le Grand Dialogue. Le Mali, à l'instar du reste du monde, célèbre le 8 mars 2017 sous le thème « L'autonomisation économique des femmes dans un monde du travail en pleine évolution ». Dans notre contexte de crise, quel est le rôle de la femme dans le processus de paix en cours? La femme malienne est-elle économiquement autonome? Les femmes sont-elles suffisamment représentées dans les instances de décision? Nous ferons le tour de ces quelques questions et d'autres avec nos invités qui sont Madame Dila Habibatou Nanima Traoré, du réseau des jeunes femmes leaders des partis politiques et des associations des organisations de la société civile, Madame Damelé Oulematou So de la FENACOF, elle est la présidente, Issa Kaoudjim du Haut Conseil islamique et Ali Tunkara qui est sociologue. Je suis Ousmane Diadié Touré pour vous présenter cette émission qui est mise en onde par Selumbo.
Le Grand Dialogue.
C'est dans un contexte post-crise que la journée internationale de la femme est célébrée au Mali. D'ailleurs, les femmes de Tombouctou n'ont malheureusement pas pu célébrer le 8 mars à cause de la tension existante. Je vais vous lire, mes chers invités, un passage que je viens de lire sur le mur d'une collègue et d'une grande sœur journaliste, Moussoukoura Konaté, qui dit « Une femme, une moitié de l'espèce humaine est hors de l'égalité. Il faut l'y faire entrer. » Issa Kaoudjim du Haut Conseil islamique. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation?
Je pense que c'est exagéré. C'est exagéré. Vous savez que la femme ne peut pas être l'égale de l'homme, que cela ne plaise aux féministes. La femme est le complément de l'homme. Ainsi est la volonté de Dieu. Vous savez, complémentarité, ça veut dire que chacun a un rôle important. Nous complétons tout le monde dans son rôle. La femme, elle est valeureuse, elle est vraiment porteuse de valeurs, elle est extrêmement importante, sinon incontournable. Mais il faut que chacun accepte de jouer son rôle et ça lui permettra vraiment de lui donner beaucoup de valeurs. Parce que quand vous regardez la femme, elle porte l'enfant, elle est aussi éducatrice au-delà de ça. Elle peut avoir les mêmes connaissances. Elle peut exercer certaines responsabilités que l'homme, mais il y a des choses qui sont propres aux femmes. Ça, c'est biologiquement parlant, et puis culturellement parlant, spirituellement parlant, comme il y a des choses aussi qui sont propres à l'homme. Donc, le complément me paraît plus exact et plus propre, mais je pense que ça, c'est seulement des rhétoriques des féministes qui veulent vraiment se faire remarquer.
Oulematou So, la présidente de la FENACOF est là. On va lui demander son avis, justement, sur cette belle citation.
Merci beaucoup, Djadjadjé. Donc, moi, j'ai dit bonsoir à tous. À Tamani d'abord et puis à tous les auditeurs et auditrices qui sont en train de nous écouter présentement. Le Grand Dialogue qui est vraiment une émission qui est devenue célèbre maintenant. Donc en fait, moi je suis très heureuse de prendre part à la célébration, à la journée de célébration du 8 mars d'aujourd'hui, mercredi. Et pour répondre à votre question, une moitié, n'est-ce pas, de l'espèce humaine qui est en dehors, n'est-ce pas, de l'égalité. Et puis, à la réponse de M. Jim, qui dit que la femme est le complément de l'homme, donc peut-être que je dirais plutôt on est complémentaire, l'homme et la femme, n'est-ce pas, pour satisfaire, n'est-ce pas, nos besoins ici-bas sur Terre. Là, la religion, n'est-ce pas, a sa version, n'est-ce pas, des faits, mais toujours est-il dit que si dans les États, depuis au niveau de l'acte fondamental, la Constitution, donc on dit que et tout citoyen, n'est-ce pas, est égaux, n'est-ce pas, devant la loi. Si on parle d'égalité, c'est l'égalité des chances, c'est l'égalité en termes de droit, parce que l'homme ne dispose pas de plus de droits, n'est-ce pas, que la femme. Et puis, notre pays, tous les États d'ailleurs, ont éduqué, n'est-ce pas, les enfants pour que on puisse jouer, n'est-ce pas, valablement nos rôles par rapport au développement de notre cité. Je ne peux pas comprendre que et la femme soit complémentaire, n'est-ce pas, de l'homme. Moi, je comprends pas ça. Je vois en termes d'être humain. Nous sommes tous des êtres humains, n'est-ce pas, avec les mêmes droits, les mêmes devoirs. Et par rapport à ça, nous sommes complémentaires. Je suis beaucoup plus pour cette version que pour l'autre. Quoi.
Alors, en définitive, vous êtes sur la même longueur d'onde.
Voilà.
Parce que je pense que Jim a également
lui,
dit hein,
il a dit que la femme est le complément, n'est-ce pas, de l'homme. C'est pas comme ça. Nous sommes complémentaires. C'est-à-dire, nous sommes complémentaires, on se complète. Là où lui, il n'est pas complet, la femme le complète. Là où la femme n'est pas complète, l'homme doit le compléter. Donc moi, je raisonne en ces termes, mais je ne raisonne pas dans le sens du suivisme. Du suivisme, n'est-ce pas, de la femme.
Jim, je vais vous faire réagir. Hein. Donnez-moi juste un instant le temps de demander l'avis du sociologue hein, Ali Tunkara qui est là. Alors, que pensez-vous de cette citation ? Une moitié de l'espèce humaine est hors de l'égalité, il faut l'y faire entrer.
Je crois qu'il faut contextualiser la situation et la, si vous voulez, et la rendre beaucoup plus environnementale qu'on ne le pense. En fait, à chaque fois qu'on parle de cette question d'équité, je crois qu'il y a trois aspects fondamentaux qu'il faut se questionner à propos. Le premier, le culturel, le deuxième, le religieux, et le troisième, l'institutionnel ou les droits positifs, en fait. Chacun de ces trois aspects, on s'aperçoit quand même que n'ont pas la même perception, effectivement, de la question d'équité. Bon, avant tout, retenons que nous sommes quand même régis par des textes, lesquels textes priment, ont la prééminence sur la culture, ont la prééminence sur la religion. C'est de toute l'ambiguïté entre le religieux, le culturel et l'institutionnel en réalité. Donc, que la femme soit la moitié de l'humanité et qu'elle soit mise à la touche, c'est une évidence. Si vous regardez les grandes fonctions, si vous regardez l'accès à l'éducation, si vous regardez l'accès justement à des postes à responsabilité, on se rend compte quand même que dans pas mal de sociétés où les femmes sont mises à la touche, mais retenez que même chez les musulmans, hein, je crois qu'il est quand même important que M. Dioum reconnaisse avec moi que dans certaines formes de lecture, cette question d'équité ne pose pas problème fondamentalement.
D'égalité.
D'égalité, voilà. Mais là où le problème se pose, si on s'inscrit dans la lecture textuelle, mais il y a des réformistes musulmans qui sont quand même des autorités en islam qui acceptent que la femme puisse exercer des fonctions politiques comme l'homme, que la femme puisse accéder à l'enseignement supérieur, puisse devenir médecin comme l'homme. Ouais, donc finalement, la question d'égalité même du point de vue islamique, elle ne pose pas fondamentalement lorsque sommes-nous dans la lecture réformiste. Voilà.
Dans une lecture réformiste, hein,
Aloudine,
on va voilà. Vous faire réagir hein, sur tout ça tout à l'heure. Le temps de donner la parole à Mme Dila Habibatou Nagnouma Traoré du réseau des jeunes femmes leaders.
Alors,
que pensez-vous de cette
bonsoir,
citation?
Bonsoir, chers auditeurs et auditrices. Alors, merci pour cette opportunité d'être là avec les aînés pour échanger avec eux sur cette thématique vraiment très intéressante. Alors, ce que je vais dire sur cette question, c'est que je vais considérer la dimension démographique. Parce que si l'on prend la proportion de la femme et par rapport à l'ensemble des milliards d'humains qui sont sur la Terre, on se rend compte que la femme représente au moins la moitié ou bien un peu plus. Mm-hmm. Alors, si on met cette moitié hors de tout processus, de tout système, imaginez ce que ce système va donner comme résultat. Alors, si on considère l'autre dimension, qui est la dimension biologique, il n'y aurait plus d'hommes. C'est vrai, Dieu a créé la femme à partir de l'homme. Donc, si la femme venait à disparaître de nos jours, il n'y aurait plus d'homme. Parce que sans femme, il n'y a pas d'homme. Et sans homme, il n'y a pas de femme. Nous sommes complémentaires, quoi qu'il en soit. Et cette complémentarité, c'est ce qui va même favoriser le fait que ces femmes-là soient mieux considérées, soient mieux associées pour qu'on ait une harmonie pour nous développer, pour vivre ensemble, pour nous épanouir. C'est ce que je peux dire sur
merci
la question.
Merci, Issa Kaoudine, du Haut Conseil islamique. Hein. Moi, quand on regarde bien le peu de lecture peut-être que j'ai eu à faire dans le texte islamique, l'islam confère beaucoup de droits à la femme, hein, et beaucoup de devoirs. Alors,
bah, puisqu'on ne va pas faire cours de théologie islamique ici, sinon on n'aura pas le temps de développer ou de répondre. Mais ce que vous dites en partie, je pense que je vais au-delà de ça. Vous savez, les gens veulent se substituer à Dieu ou bien veulent faire une lecture
une lecture laïque. Alors, dans les deux cas, le musulman ne se reconnaît pas. Bon, maintenant, ceux qui veulent essayer de m'excuser l'expression, c'est-à-dire que prostituer le texte en disant qu'il y a des réformistes, on ne réforme rien. C'est Dieu qui dit le texte et la lecture, il est prophète. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les ulémas, les grands savants, et qui font une lecture adaptée. Donc, le texte, le contexte, et cela, en islam, ça existe. Et pour répondre d'abord au très respecté sociologue, l'éminent sociologue, vous savez, il y a quelque chose qui, quand il dit, il fait une définition culturelle et puis religieuse que j'ai qualifié métaphysique, et puis maintenant il amène institutionnel, il met l'institution au devant.
Mais non, ça, dans une république laïque.
Ouais, mais qui est laïque? Mais moi, je ne suis pas laïque. La république, moi, je. Non, écoutez, il faut qu'on se comprenne. On m'impose quelque chose, je le subis. Mais je ne suis pas laïque.
Vous subissez la laïcité.
Mais bien sûr, je suis un musulman. Moi, ma référence, c'est le Coran. Ce n'est pas Jean, ce n'est pas Paul, ce n'est pas la lecture du droit positif qui n'est qu'une lecture judéo-chrétienne. Je suis un musulman. Donc, ma référence, c'est le Coran. Et le Coran est en porte-à-faux avec ce que les gens définissent comme droit et norme. Parce qu'en islam, c'est Dieu qui définit le droit et le devoir. Donc, dès le fond, il y a une divergence de fond. Et que souvent, qui nous amène à ce que nous voulons, de la violence physique.
Donc,
et même
vous
culturelle.
Que l'institutionnel, le religieux
mais,
et
mais
le culturel.
Vous connaissez, je vais vous donner un exemple. Vous connaissez, l'Israël, c'est un pays quand même démocratique, mais il y a des partis judéo-chrétiens. Il y a des partis qui se disent qu'ils reconnaissent la Torah comme valeur. Ouais. Vous le savez. Ah, vous allez en Allemagne, il y a des partis démocratiques chrétiennes qui revendiquent. Ouais. Alors, chez nous, ici, c'est quoi? C'est-à-dire que la religion ne doit pas parler de politique, mais en réalité, c'est une manière de mettre le musulman à la touche. Nous ne sommes pas des naïfs, mais nous comprenons tout ça, mais nous essayons tout simplement pour la paix, pour vraiment le vivre ensemble. Nous faisons des efforts. Et aujourd'hui, ce que les gens ne savent pas, le 1960 n'est pas 2017. Vous avez des milliers de gens qui ont des doctorats en théologie, qui ont beaucoup de connaissances, qui sont des médecins, qui sont des savants dans tous les domaines, mais qui sont musulmans, des militants musulmans. Partout, ça existe. Donc, c'est un choc de civilisation. Et donc, ce qu'ils dit, par exemple, pour moi, quand Dieu parle, l'institutionnel, pour moi, c'est nul. Ça n'existe pas. Pour moi, c'est du faux. Donc, maintenant, ça, c'est pour répondre à lui. Et complémentarité, dans le sens, quand vous parlez de complémentarité, on est complémentaire. Mais dans la complémentarité, il y a un chef. Hein? Parce que ce que les laïcs ne veulent pas, pour les musulmans, ils se soumettent. L'islam, c'est la soumission. Mais pas à moi, pas au chef de l'État, pas au roi, mais à Dieu. Donc, Dieu, par sa miséricorde, qui nous a créés, alors de Ève et Adam, mais en islam, tous les prophètes sont des hommes. Mais si Dieu l'a fait, il a des raisons. Et pourtant, ne démérite pas la valeur de la femme. Donc pour nous, en islam, la femme est le complément de l'homme. Mais la complémentarité, le chef, c'est l'homme. Et l'homme doit exercer cette suprématie sur le reste. En tant que chef de famille, il va prendre soin de sa famille. Mais en revanche, par contre, même si je ne vais pas développer ça, l'homme doit subvenir aux besoins de sa femme, même si la femme, quand même qu'elle a le milliard, elle doit garder son milliard. L'homme doit subvenir aux besoins de ses enfants, même si la femme a des milliards. Alors que dans la société laïque, vous devrez même cotiser pour prendre tout en charge. Mais en islam, tout doit revenir.
C'est un sacré
avantage. Tout doit revenir à l'homme. Donc il y a devoir et responsabilité. Donc pour nous, on s'en tient au Coran et au prophète. Pour moi, laïcité, c'est par défaut. C'est pas une conviction pour moi.
Alors, donc, pour réagir, moi je pense que l'appropriation de la laïcité, même le Mali est un pays laïque souverain. L'appropriation de la laïcité, je crois que ça n'a pas passé au niveau des esprits. Parce qu'on peut, exercer dignement, n'est-ce pas, sa religion, sans pour autant vraiment ne pas reconnaître, n'est-ce pas, les valeurs de l'État. Ça c'est clair. Parce que le Mali, quand même, un but une fois, et puis le Mali a des principes, des valeurs sacro-saintes vraiment qu'on doit respecter. Moi, je pense que, c'est-à-dire, il fallait que cette appropriation-là se fasse par tous les citoyens et citoyennes, qu'on ne confonde pas, n'est-ce pas, la religion et l'État. Et aujourd'hui, ça dit, nos États sont confrontés à un problème de développement. De développement, ça n'a été démontré nulle part qu'un pays peut se développer en laissant en marche, n'est-ce pas, la moitié de sa population. Vous voyez, après 1945, la Deuxième Guerre mondiale, il y avait plus de femmes que d'hommes. Les femmes sont devenues des chefs de famille, de fait. Sinon, je suis d'accord que culturellement, c'est l'homme qui est le chef à la maison. Donc, par rapport...
D'ailleurs, est-ce que certains de nos textes ne le confèrent pas quand on va à la mairie, justement? Est-ce que cela ne se dit pas?
Il y a un code de la famille. Il faut être d'accord, M. Jim, que le temps évolue. Et que le temps évolue, c'est de la dialectique. Qu'on le veuille ou pas, les choses vont changer.
Et vous pensez que l'État doit remettre Dieu en cause?
Je vous propose
de prendre quelques secondes de pause et nous reviendrons continuer cette émission.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Vous suivez le grand dialogue 8 mars oblige, journée mondiale de la femme, Tamani, le studio Tamani. Le grand dialogue célèbre cela en sa manière, justement. Le thème de cette année, l'autonomisation économique des femmes dans un monde de travail en pleine évolution. Alors, Madame Dila, quelles étaient les activités qu'il y avait aujourd'hui pour les femmes au niveau de Bamako déjà?
Bon, je peux dire qu'il y avait beaucoup d'activités. Déjà, au niveau de notre mairie en commune 3, il y avait une cérémonie qui était organisée par la Direction nationale de la promotion de la femme en collaboration avec la mairie de la commune 3, dont Madame le maire, Madame Diré, Mariam Diallo. Et elles ont procédé à remettre des tricycles et puis à des vivres aux handicapés et également aux femmes qui sont en position difficile.
Le chef de l'État a présidé carrément une cérémonie au niveau du Palais de la Culture, justement, pour célébrer le 8 mars.
C'est la journée phare du 8 mars.
Voilà.
Vous savez qu'au-delà même du... parce qu'en réalité, le mot n'est pas fort, au-delà de tout le bruit que nous faisons, que les journées mondiales des femmes, ce n'est pas un problème. Il faut célébrer la femme tous les jours. Une seule journée pour la femme, moi, je pense, c'est même insulter la femme. La femme est célébrée tous les jours. Bon, ça c'est tout simplement du bruit politique, mais sur le fond, je reviens à ce qu'a dit la bonne dame, moi je suis d'accord. Aujourd'hui, le vrai défi pour les femmes, c'est accès au savoir. Parce que tout ce problème, ça se joue là. Si la femme a accès au savoir, au Mali, on n'a pas un problème de discrimination entre femmes et hommes. On est en train de nous distraire. Au Mali, ce problème ne se pose pas. Les femmes ont été premières ministres ici.
Oui, difficilement.
N'est-ce pas?
Une femme a été.
Il n'y a jamais eu de problème. Le gouverneur de Dis-le-Bas, à qui j'ai beaucoup de respect, Mme Sakou Aminata Amikane, elle est gouverneur, elle est femme. Le problème n'est pas ici un problème de responsabilité parce que les femmes, on ne la donne pas. Le problème, c'est d'abord, quand vous parlez de l'autonomisation des femmes, mais s'autonomiser par rapport à quoi?
L'autonomisation économique.
Oui, par rapport à quoi et à qui? C'est ça le fond. Par rapport à quoi et qui? Elles vont réagir. Maintenant, moi, je pense que le problème est politique. On est en train d'instrumentaliser la femme pour en faire un objet politique, pour essayer de faire des voix, pour gagner les élections, pour montrer les femmes, parce que les politiques, c'est tout ça, ils instrumentalisent tout pour gagner des voix, alors les femmes, les jeunes, mais le problème même des femmes, c'est eux, les politiques. Les guerres, qui font les guerres, c'est les politiques. Qui créent des situations de mauvaise gouvernance, c'est les politiques. Aujourd'hui, vous avez des milliers d'enfants qui ne vont pas à l'école, c'est la faute à qui? C'est aux politiques. Vous avez des milliers de femmes, qu'on parle de femmes violentées, battues, c'est les politiques. Les guerres, qui commandent les guerres? C'est les politiques. Alors, donc on arrête de nous distraire avec ces mots. Voilà, parce que
Ali Tunkara, parlons un peu de la représentativité des femmes dans les instances de décision, particulièrement au Mali. Est-ce que vous pensez que les femmes sont suffisamment représentées à ce niveau-là?
Elles ne le sont pas suffisamment, et cela s'explique également par effectivement toutes ces difficultés auxquelles elles sont confrontées pour accéder à l'enseignement supérieur. Dans le même temps, si vous regardez un peu dans les différentes universités, vous allez vous rendre compte quand même que la femme constitue une couche marginale. Donc, il va de soi qu'au terme de la formation ou des formations, qu'on n'ait plus de difficulté à avoir plus de femmes députées, plus de femmes ministres. Mais au-delà même du numérique, hein, je crois qu'on ne va pas quand même nier qu'il n'y a pas de barrières. C'est extrêmement important. Il y a des barrières tant culturelles, religieuses, et même politiques, hein, je reconnais. Et, prenez le cas de l'Arabie Saoudite, qui est quand même le référent pour le monde musulman. Et, alors, mais là, on a compris que même la lecture dans laquelle la péninsule s'inscrivait, quant au statut de la femme vis-à-vis de la question politique, l'Arabie Saoudite a révisé justement, si vous voulez, sa position. De plus en plus, les femmes participent aux élections communales. Ça peut vous dire qu'en réalité, si une religion ne s'adapte pas, quand je dis adapter, je parle de toutes les affaires sociales, elle n'est même pas viable, soit en termes logiques. On ne va pas continuer à concevoir le même statut qu'avait une femme sous la prophétie et au XXIe siècle. Je parle des fondamentaux, hein, notamment l'accès à l'éducation, l'accès à la justice, l'accès à la gouvernance. Je crois que ça, ce sont des choses qui ne relèvent pas forcément du divin, en fait. Mais je crois que il y a une confusion terrible entre le religieux et le culturel. Hein.
Est-ce qu'au Mali, c'est ça le problème? Quand on voit que Soundiata Keïta avait déjà 7 femmes ministres dans son gouvernement et non des moindres.
Oui, oui, mais sauf que... Non, je crois qu'on est un peu dans la nostalgie du passé, mais soyons quand même un peu logiques. Même s'il y avait 7 ministres, elles n'avaient pas de fonctions que je dirais visibles.
Justement, elles avaient des fonctions importantes.
Oui, mais pas visibles, je vous promets.
Mais avant, on va réagir.
Madame Gila,
vous allez réagir. Vous allez réagir.
Il y a des codes de vérité.
Dans quelques minutes, vous allez réagir, le temps de donner la parole à Madame Gila qui a très peu parlé. On voit que les femmes et les enfants sont les plus vulnérables, hein, dans les conflits. Et le Mali, on le sait, connaît un conflit depuis 2012. Aujourd'hui, quel doit être le rôle de la femme, hein, dans tout ça?
Oui, je pense que le rôle de la femme doit être central. Parce que si on observe depuis 1960 jusqu'à nos jours, par rapport au rôle qui est attribué à la femme dans notre société, elle est juste complémentaire pour applaudir. Mais par rapport à la participation, elle n'est pas qualitative. Elle est souvent sollicitée sur le plan quantitatif. Quand vous voyez les élections, quand vous voyez les mobilisations sociales, et même quand vous voyez au niveau des religions, même quand vous voyez, il y a des mobilisations qui sont faites le plus par les femmes. Mais quand il s'agit d'agir pour proposer, pour décider, les femmes sont vraiment très rares. Même quand vous regardez les institutions au niveau de la CVJR, au niveau du gouvernement,
CVJR,
vous allez voir qu'il n'y a que 7 femmes là-bas.
Il y a une femme, hein.
Oui.
Il n'y a même pas une femme. Il y a une femme qui a été vice-présidente de la CVJR,
oui.
Ce qui était important.
Oui.
Et
Oulématou,
la
récente.
Dans la CVJR.
C'est récent
également.
Parce qu'il a fallu aussi que nous mettons ensemble, que nous nous battons pour que ces femmes-là soient écoutées, pour qu'elles soient à des niveaux qui sont vraiment représentatifs. Et quand vous regardez le gouvernement, vous allez voir la représentation. Et au niveau de l'Assemblée, elle ne représente que 10%. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître
alors
que
les textes parlent de 30%.
Oui,
hein.
Il faut reconnaître aujourd'hui qu'il y a une petite avancée au niveau des élections du 20 novembre passé, parce que nous sommes environ 2886 conseillères à être élues. Comparativement à la dernière... Oui, environ 25% d'augmentation. Donc ça, c'est à reconnaître.
Et c'est au nombre donc, des...
Et il y a 11 femmes maires aussi qui sont là. Mais, par exemple, les décisions au niveau des conseils communaux, ce sont les maires qui sont au centre des choses. Et il n'y a que 11 femmes maires sur 703.
Battez-vous à être des têtes de liste.
Le
problème, c'est que c'est quoi? Ça, c'est déplacer le problème. Ça veut dire que personne ne va donner un rôle que vous ne méritez pas. Au-delà de tout ce qu'on est en train de dire, c'est la réalité, c'est les politiques qui instrumentalisent ça, les femmes se battent, il faut leur donner des représentatives et qu'elles soient dans les prises de décision. Mais non, elles sont dans les prises de décision selon le niveau intellectuel et la capacité qu'elles ont. Ce problème ne se pose pas, on n'est pas dans un état où il y a des ségrégations.
Est-ce que vous seriez d'accord, hein, que des femmes soient nommées à la tête des institutions?
Non, écoutez, il ne faut pas les mettre parce qu'il faut les mettre. Quel le mérite?
limite, il n'y a pas de problème. On n'a pas ce problème. C'est-à-dire qu'il y a des pesanteurs sociales. Il y a des pesanteurs sociales qui sont évidents. Culturellement, nous avons, parce que je vois, ces féministes-là, je les comprends.
Vous seriez prêt à accepter.
Je pense qu'il faut que les gens comprennent une chose. La femme, c'est mon épouse. C'est ma soeur, c'est ma fille. Je ne peux pas être contre cette fille que je l'amène à l'école pour avoir l'accès au savoir. Cette soeur qui est ma soeur et qui est ma mère. Comment je peux être contre la femme? Je crois que je ne suis pas d'accord de l'approche occidentale de la femme. Pour l'Occident, la femme est un jouet qu'on instrumentalise, qu'on, vous m'excusez de l'expression, qu'on est en train même de la mettre nue. Vous pensez que, par exemple, quand on est en train de nous distraire ici, mise des femmes, sortir les femmes, pour montrer qu'une femme est belle, il faut qu'elle se déshabille devant les hommes. C'est ça, valoriser la femme. Ça, c'est un exemple de l'Occident. Maintenant, allons sur le fond. Nous avons des pesanteurs sociales que je reconnais, qui ne favorisent pas vraiment l'émergence de la femme. Ça, c'est vrai. Il faut réfléchir pour trouver des solutions à cela. Les compétences qui valorisent la femme dans l'exercice des fonctions, nous devons réfléchir à ça. Il y a certains boulots, quand même, nous n'acceptons pas, si nous avons les moyens, que les femmes font ce travail. Elles ne se battent même pas pour ça, être des charpentiers, des menuisiers, des maçons. Mais pourtant, quand vous regardez dans les chantiers des ouvriers, 99% de ces ouvriers sont des hommes. Nous n'avons pas entendu les féministes se battre pour ça. Mais les postes de responsabilité, parce qu'il y a à manger, à boire, ça valorise. Bref, c'est pas le problème. Je vais revenir un peu au sociologue qui parlait un peu du temps qui parle chaque fois de l'Arabie Saoudite, parce que l'Arabie Saoudite, on comprend, hein, c'est un pays fermé, c'est un pays qu'on qualifie de, alors, qui étouffe la femme, qui brutalise la femme, qui fait tout à la femme. Non, c'est pas vrai. Le problème, c'est quoi? C'est un choix. C'est un pays théologique, c'est un pays qui rester selon les principes de son histoire, de sa culture, et aussi c'est un pays qui n'est pas n'importe quel pays, parce que c'est les deux lieux saints qui se trouvent en Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite ne peut pas s'ouvrir comme la France, comme l'Angleterre, où tout est permis. Donc bref, ça c'est par rapport à cette question. Maintenant, parlant, quand il voulait parler de dire que les femmes vont être dans les communales et autres là, mais ces communales là, c'est pas une valeur saoudienne, c'est aller aux élections communales, c'est une valeur occidentale. Mais par contre, je vais lui dire quelque chose qu'il ne sait pas peut-être. C'est que du temps du prophète, le chef du marché, ce que vous qualifiez grand marché de Bamako, était une femme. La première épouse du prophète était commerçante. Donc on arrête de nous distraire sur le fond. L'islam n'a jamais étouffé la femme. L'islam n'a jamais empêché la femme de travailler. Mais l'islam encadre le travail de la femme. Si le travail c'est d'aller dans une boîte de nuit, être barman, être là, servir, être serveur, l'islam dit non. C'est des perversions. Donc c'est par rapport à ça. Mais si elle doit être...
L'islam dit non à ça pour l'homme.
Ça parce qu'il y a une question de foi. Oui, d'accord. Claire. Maintenant, si la femme doit être enseignante, si elle doit être médecin, si elle doit être gynécologue, si elle doit être ingénieure, il n'y a pas de problème. Maintenant, si elle doit aller s'exhiber aux hommes pour être mémise en ce moment, ça devient de la perversion.
Alors, une femme présidente de la République.
Non, ça ne dépend du choix d'un peuple. Si le peuple pense que la femme va être présidente, mais elle parle pas, qu'elle n'a qu'à aller aux élections ici, qui les empêche d'aller aux élections? Chaque fois qu'elles sont allées aux élections, elles sont les bonnes dernières de la classe. Pourtant, les femmes sont les plus nombreuses. Elles doivent se réfléchir à ça. Les femmes vont aux élections. Si elles veulent changer les choses, c'est très simple. Elles sont à 51,5% au Mali ici. Une candidate femme aux élections, elle est toujours bonne dernière. Et vous le savez, pourtant, ça veut dire que les femmes ne votent même pas pour les femmes. Donc, on nous arrête de nous distraire.
C'est la mal compréhension.
Bon, alors, battez-vous pour qu'on le comprenne.
Depuis la nuit des temps, les femmes sont confinées à la maison. Les femmes ne sortaient pas beaucoup. Donc c'était l'homme qui allait sur les lieux de travail.
C'est une question qui revient souvent. Est-ce que parfois les femmes ne sont pas les freins pour les femmes?
C'est-à-dire?
Est-ce que parfois ce ne sont pas les femmes qui ne soutiennent pas justement?
Oui, mais parce que j'ai dit que ça c'est souffrant, n'est-ce pas, de limitation dans l'instruction. Elles sont majoritairement analphabètes. Elles sont éduquées, n'est-ce pas, dans ce sens. Il y a les pesanteurs sociaux. Moi, ce que je n'accepte pas de faire aujourd'hui à cause vraiment de mon éducation culturelle, peut-être que ma fille ne sera plus comme ça. Donc c'est ça, c'est-à-dire la population est en train vraiment d'augmenter. Il y a beaucoup plus de femmes, les femmes sont en train de grimper en nombre. Donc l'éducation vraiment est en train vraiment d'être desservie de la plus belle manière. Donc et même si on ne fait rien, les choses vont changer d'elles-mêmes. Donc je suis en train de dire, si on ne se supporte pas là, il n'y a même pas une bonne coordination, il n'y a pas de synergie d'action. Parce qu'on a, on travaille sous fond d'analphabétisme et de limites d'instruction. Le savoir n'est pas au rendez-vous. Elles ne comprennent pas. Mais et puis elles sont toujours, n'est-ce pas, dans cette éducation qu'il faut être et à la maison, sous le couvert de l'homme. Et Moussa, il avait fait à Kenya, alors que chez Oude Bekelaï.
Vous voulez maintenant que les femmes refusent de se marier?
Non, du tout. Non, mais
je vous propose encore une fois, c'est l'heure de la seconde pause. Seconde pause.
Une réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Oui, Marc, journée mondiale de la femme. Alors, vous l'aurez compris, un débat très, très intéressant. Madame Dambélé Oulé-Matousso, est-ce que, justement, les chartes signées par le Mali en matière de droits de femmes sont respectées?
Du tout.
Ici.
C'est pas appliqué. Mais l'État fait de son mieux, hein. Mais l'État n'arrive pas vraiment à se départir, n'est-ce pas, des griffes, n'est-ce pas, de l'environnement et socioculturel. C'est ça, en fait. Vous vous souvenez vraiment de toute la péripétie, n'est-ce pas, autour du code des personnes de la famille. Les gens en ont suffisamment souffert. Donc ça veut dire que même l'État laïque là, et souverain n'arrive pas, n'est-ce pas, à matérialiser certaines choses. Mais moi, je pense qu'il faut que l'État soit fort.
L'État ne fait réagir.
C'est l'État qui est fort. C'est pas à la faveur, n'est-ce pas, de la démocratie que vraiment que les choses doivent évoluer autrement. Moi, je suis d'accord qu'il y ait quand même ce pluralisme là, et que vraiment beaucoup de gens, n'est-ce pas, viennent influer, n'est-ce pas, sur les décisions de l'État. Mais à un certain moment, l'État doit être catégorique.
Merci.
Il y a quand même une trajectoire. L'État suit une trajectoire avec des démarches bien respectées. L'État arrive à un niveau à des pressions. Et l'État s'arrête. Moi, je pense qu'il faut que l'État s'assume par rapport à certaines situations. Si à présent, la situation des femmes est comme ça, là, c'est que l'État même est frileux.
Laissons les autres réagir. Vous aurez la parole tout à l'heure. Allez, Tunkara, l'autonomisation économique des femmes dans un monde du travail en pleine évolution. Est-ce que la femme malienne est économiquement autonome?
Elle ne l'est pas officiellement, mais quand vous créez à fond, vous allez vous rendre compte que 70% de nos productions sont assurées par les femmes, mais elles sont à l'ombre en réalité. Et toutes les études convergent sur un dénominateur commun qui consiste à dire que la soumission de la femme, concevoir la femme comme un être soumis, un être non ordinaire, tout cela a pour fondement l'économique en réalité. Et le fait que ce sont les hommes qui détiennent majoritairement l'économie, cela confère davantage aux hommes cette prééminence masculine.
Même si Issa Kaoudi me répondrait certainement que la femme du prophète, celle-là m'était plus riche que lui.
Sauf que ce qu'il n'ajoute pas, en fait, juste après la prophétie de l'islam, beaucoup de savants musulmans ont été, se sont inscrits d'emblée dans cette lecture textuelle émaillée de pratiques culturelles. C'est ce qu'il faut qu'on en parle sérieusement aussi. Mais reconnaissez que, avec moi, le fait que la femme du prophète Mohammed a été une commerçante, mais si nous regardons dans les sociétés majoritairement musulmanes, on se rend compte quand même que une telle occupation de Khadija est devenue c'est vraiment du passé. Dans le fait, on ne l'observe pas. Hein, ce sont les musulmans qui s'opposent à ce que la femme accède à l'emploi. On entend les musulmans qui refusent à ce que la femme exerce des fonctions médicales. Vous comprenez que, effectivement, musulmans, finalement, on a eu du mal à différencier ce qui est du culturel, ce qui est du religieux et ce qui a été orchestré par l'Arabie Saoudite. Non pas parce qu'elle tient pour la bonne marche de l'islam, mais plutôt ce sont des configurations auxquelles l'Arabie Saoudite les préserve uniquement pour son pouvoir. Hein, lesquelles considérations sont même contradictoires hein, par rapport à pas mal des fatwas, des avis juridiques émis par d'autres savants musulmans. Donc l'autonomisation de la femme, qu'on soit dans le contexte africain ou européen, je crois que c'est le facteur le plus important afin de rendre la femme un être beaucoup plus accompli, de rendre la femme l'égale de l'homme. Hein. Voilà, c'était la finalité recherchée, hein, qu'on arrive à compétences égales, à diplôme égal, et qu'il n'y ait pas de frein. Mais si l'institutionnel, c'est d'où j'ai dit dans mes propos introductifs, un institutionnel fort est indispensable pour établir cette question d'égalité entre l'homme et la femme. Mais si nous sommes dans un état fragile qui peine à résister face aux pressions, peu importe leur nature, il va de soi que nous assistons à pas mal de dérives en fait.
Merci. Alors, Madame Dila Habibatou Nanima Traoré du réseau des jeunes femmes leaders, on a vu quand même quelques cas de violence conjugale qui se sont soldés par des morts de femmes au Mali ces deux dernières années particulièrement. Comment expliquer cela?
Bon, vraiment, cette situation est catastrophique. Parce que déjà, cela, on peut dire que cela est le fruit de la mentalité de notre société. Parce que on le dit, oui, on dit vous êtes nos moitiés, vous êtes ceci, vous êtes cela, mais au fond, les violences sont là. Les violences sont là et on n'en parle pas. Et quand nous nous levons pour défendre ces cas de violence, on dit oui, les féministes ont commencé ceci, les féministes ont commencé cela. Alors si nous, on ne le dit pas, qui va le faire? Parce que comme vous le voyez, si on prend la majorité des femmes, elles sont analphabètes, elles ne savent même pas cela seulement. Elles ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire pour se défendre soi-même. Parce que notre société, il y a les traditions, il y a les cultures qui se sont mélangées à la religion. Et finalement, on est en perte de repères. Donc nous sommes en train de prendre des religions, des concepts sociaux, etc. d'ailleurs. Et finalement, on ne sait pas qu'est-ce qui est bon pour nous ou qu'est-ce qui ne l'est pas. Et nous disons, et souvent on se laisse aller aussi à travers des prêches pour dire que la femme doit faire ceci, elle doit se soumettre, elle ne doit pas parler, elle doit subir, elle doit faire ceci, elle doit faire cela. Souvent ce sont des interprétations, ce sont des interprétations,
vous allez parler,
ce sont des interprétations qui sont erronées, mais vu que ce sont souvent des interprétations erronées, mais étant donné que le système social qui est là favorise cela et que la majorité ne parviennent pas à analyser, à comprendre les choses par elles-mêmes. Pas que les femmes, même les hommes. Parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que quand il y a question de compétence ou de compréhension ou d'autres choses, de qualité, on dit que oui, on reproche aux femmes, non, vous n'avez pas ci, vous n'avez pas ça. Alors que les hommes, ils sont majoritairement comme ça. Il faut être avec eux, il faut évoluer avec eux pour voir jusqu'à quel point il y a des carences aussi qui sont à ce niveau. Mais cela n'est pas dit. Mais parce qu'ils ont eu le temps de s'organiser entre eux, de s'entraider, de mettre des systèmes qui se permettent de se défendre les uns et les autres. Et nous autres qui ne voyons pas ça, celles qui n'ont pas accès à ces instances et de comprendre quels sont les mécanismes qui sont là, elles sont marginalisées, elles baissent les bras, elles disent qu'il n'y a pas de solidarité. Et les hommes en font plus. Même pour les élections présidentielles, on dit que 51% de la population malienne sont des femmes. Mais il faut reconnaître que ce sont ces femmes qui votent pour les hommes.
Mais voter pour les femmes, pourquoi ces femmes ne votent pas
pour les hommes? Pourquoi ces femmes ne votent pas pour les hommes? Parce qu'on ne vote pas pour une femme parce que c'est une femme. Mais il faut un système qu'on met en place pour sensibiliser, pour faire voter ces femmes-là pour eux. Et les hommes, ils ont le pouvoir économique. Et c'est ce pouvoir économique qui leur permet de réaliser leurs objectifs, leurs stratégies.
Justement,
le pouvoir économique, les femmes ne l'ont pas. Les femmes ne l'ont pas. Et très souvent, il y a des oppressions, il y a beaucoup de choses qui sont liées à cela. Et quand elles n'ont pas ce pouvoir, c'est vraiment difficile. Le pouvoir financier, c'est vraiment fondamental pour que les femmes puissent vraiment s'émanciper, s'entraider. Le pouvoir économique est le centre de toute chose. Quand on ne l'a pas, on n'a rien. Et les hommes l'ont. Nous voulons seulement que qu'on ait aussi droit à cela.
Merci.
Pour mieux nous épanouir.
Merci, madame Dila. Attendant une question, j'ai vu quand même qu'il y avait une incompréhension, hein, si je peux m'exprimer ainsi, entre le ministre de la Justice et certains religieux par rapport à des textes de loi sur l'excision, déjà.
Non, ça c'est derrière moi, je ne vais pas polémiquer sur ça. Ce qu'a dit le très respecté l'imam Mahmoud Dukou me suffit amplement. Restons dans le sujet. Moi je pense qu'il faut quand même qu'on soit quand même lucide. Hein. Il y a un peu de passion pour mes sœurs femmes. Vous savez, le problème de fond, parler d'interprétation erronée, elle n'est pas qualifiée pour le savoir. Donc, avec tout le respect que je la dois, je pense que les textes, c'est des domaines des érudits. Et maintenant, on peut ne pas être d'accord avec la religion, c'est un droit. L'explication, quand elle parle, on sait qu'elle a une compréhension, une vision occidentale que moi, je peux qualifier alors de quelque chose que j'ai vraiment, pour tout le respect que j'ai à la femme, je ne vais pas le dire. Donc, on peut avoir une vision culturelle occidentale de l'approche, c'est un droit, mais ça ne doit pas s'imposer. Tout ce qui s'est dit, c'est tantamarre-là, c'est une orchestration de l'Occident que nous comprenons, qui a colonisé ce pays, qui a amené des valeurs judéo-chrétiennes et que nos États sont dits laïques, démocratiques, ceci,
mais
cela.
Est-ce que vous êtes d'accord que culturellement, quand même, une présentation culturelle sur la femme
également, la culture, culturellement, elle ne peut pas s'exprimer comme ça. Les sociétés évoluent avec leur culture. Mais nous n'évoluons pas avec notre culture. Nous sommes en train d'enterrer notre culture pour essayer de faire de la promotion de la débravation occidentale. L'Occident qui les raconte tous ces mots a donné aujourd'hui comme valeur l'homosexualité. Elle ne peut pas oser critiquer ça, sinon elle sera plus ce qu'elle est. L'homosexualité est devenue un droit, un devoir. Les femmes se marient entre elles en France, c'est devenu un droit, le pacte.
Exprimez-vous sans engager. Il y a des milliers d'auditeurs qui nous écoutent.
On est entièrement d'accord.
Je ne
veux pas m'engager par rapport à ces aspects.
C'est noté, madame.
Non, je ne suis pas d'accord.
Je ne suis pas d'accord. On continue à autre chose.
C'est noté.
Maintenant, je vais aller à autre chose.
Ce qu'il a dit ne m'engage nullement.
Ce qu'on fait.
Je n'ai jamais soutenu ces positions et je ne le ferai pas.
Madame Dambélé. Madame Dambélé. Comment garantir déjà une meilleure représentativité des femmes,
une meilleure représentativité des femmes
pour le bonheur de tous.
De tous. Comment garantir cela? Moi, je pense que l'État est le premier garant d'abord. Après l'État, n'est-ce pas tout ce que les autres font? Le travail des organisations de la société civile, notamment féminine, consiste à accompagner, n'est-ce pas, l'État. Dans l'État n'a qu'à faire respecter d'abord toutes ces conventions-là dont vous venez de poser, n'est-ce pas? Il n'a qu'à faire appliquer d'abord cela. Il n'a qu'à faire appliquer les textes nationaux.
Et même si ces textes sont en porte-à-faux avec le Coran?
Mais le Coran n'est pas l'État.
Mais le Coran est plus fort que l'État?
Non,
l'État a commencé quand?
Mais
faut qu'on arrête. Non, je crois qu'il y a un problème de fond. Non, attends, on parle d'un débat contradictoire. Vous me laissez parler. Le Coran est plus fort que l'État africain ne peut pas s'imposer au Coran. Je vais vous donner un exemple. Moi, je vais vous donner un exemple. En France, on exige que qui que vous soyez, vous n'avez droit qu'à une seule femme. Vous le savez. Mais ce n'est pas une violation du droit musulman.
C'est leur texte.
Mais c'est leur texte. Mais pourquoi chez nous, ici, vous voulez nous imposer laïcité chrétienne?
Le Mali est laïque.
Le Mali n'est pas laïque.
On va laisser Ali Tunkara parler. Finalement, les auditeurs ne comprennent rien. Alors, si on veut, mesdames et messieurs, non, mais Issa Kaoudim, si on veut être compris par nos auditeurs déjà, on s'écoute.
L'État est souverain, c'est l'État.
Mais l'État ne peut pas être plus fort que le
Coran. Issa Kaoudim, s'il vous plaît. Allez, Tunkara. S'il vous plaît, Issa Kaoudim. Isaac Aoudi, Madame Damene, le dernier mot à Ali Tunkara,
s'il vous plaît.
Le dernier mot à Ali Tunkara.
Oui,
Ali Tunkara.
Je crois que.
Je comprends.
Isaac Aoudi.
Isaac Aoudi.
Non, je crois que.
Il nous reste une minute. On ne se comprend pas.
Oui, s'il vous plaît.
Mesdames et messieurs, je pense qu'on va arrêter cette émission. Je pense qu'on va. S'il vous plaît, madame, s'il vous plaît. Allez, Tunkara.
Malheureusement, c'est un sujet très sensible. Je crois qu'il y a des aspects qui apparaissent au-delà de nos discussions, qu'on reconnaisse que quand on parle du statut de la femme, nettement, le religieux apparaît dans le contexte malin. Je comprends heureusement. Mais c'est d'où toute l'ambiguïté. Et face à un problème juridique qui est l'institutionnel, un problème religieux, s'il y a lui de faire un choix par un citoyen, vous voyez toute la confusion. C'est d'où l'importance que l'institutionnel se conforme également à ses mentalités. Et dans le même temps, il faudra que M. Dium comprenne une chose. Et des belles idées peuvent émerger du local. Il est quand même très grave de penser qu'à chaque fois qu'on parle de l'amélioration du statut de la femme ou des questions qui se posent à nous, on nous voit comme quelqu'un qui est instrumentalisé par l'Occident. Je crois que ça, en réalité, ça enlève toute la quintessence de l'intelligentsia malienne. Voilà.
Merci beaucoup, Ali Tunkara. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette émission. Merci à vous, chers auditeurs. Ceci met un terme à notre émission d'aujourd'hui. Vous pouvez retrouver cette émission sur www.studiotamani.org, celle-là ainsi que toutes les autres. Elle a été réalisée par Ibrahim Aran Diallo. Sedumbo était à la mise en onde, Mamadou Ouattara à la régie vidéo. Je suis Ousmane Diadji Touré pour vous présenter cette émission. À demain.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba. Et de Wani Wamakaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry, Halo Dumambi.
Chienne Berry, Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.